Chapitre 9. Elle s'endort dans le fauteuil relax et se réveille une heure plus tard, quand quelqu'un tambourine à la porte. Elle se précipite et ouvre sans vérifier qui est de l'autre côté, tout son corps palpitant de ce hurlement d'espoir que c'est elle, c'est Jules, c'est elle. Mais ce n'est pas Jules. Ce n'est personne. Il n'y a personne là. Elle regarde des deux côtés dans le couloir, toujours personne. Elle se retourne vers son appartement. Il est vide comme jamais il n'a été vide. Même après le départ de Duki, de Kenfen ou même de Noël. Il est vide de la même manière que les cimetières sont vides, remplis à craquer des restes de ce qui ne pourra plus jamais être. En cinquième, il y a longtemps, Sœur Loretta leur disait que même si l'enfer n'était pas des grandes flammes avec des démons cornus armés de fourches comme le supposaient les gens au Moyen-Âge, c'était, il ne fallait pas s'y tromper, un vide. C'était être séparé de l'amour pour l'éternité. Quel amour? L'amour de Dieu. L'amour de n'importe qui. L'amour, quel qu'il soit. La douleur infligée par une fourche ou même par une flamme perpétuelle n'est rien comparée à la douleur de ce vide. Un exil sans fin, disait Sœur Loretta. Le cœur vide et abandonné à tout jamais. Mary Pat retourne à l'intérieur juste le temps d'attraper ses cigarettes et son briquet. Quand elle arrive aux Fields, la pancarte est toujours accrochée, fermée pour affaires privées. Et les lumières sont baissées derrière l'unique fenêtre haute. Mais elle se met à frapper et elle ne s'arrête pas. Elle se sert de sa main gauche parce que la droite est toujours écorchée du contact avec la tête de cet abruti de rhum. Cela fait une bonne minute qu'elle martèle la porte quand quelqu'un vient tirer les verrous. Trois verrous, l'un après l'autre. Puis, rien. C'est son dernier avertissement. Si tu veux entrer, tu ouvres la porte. Ta dernière chance de partir. La peur est là, bien sûr. Tout à coup, c'est la seule chose qu'elle sent. Une présence qui a du corps. Aussi réelle et tangible qu'un autre être humain se tenant près d'elle sur le trottoir. D'autres personnes ont passé cette porte, elle le sait, et ne sont jamais ressorties. Cette porte n'est pas simplement la porte d'un bâtiment. C'est une frontière entre deux mondes. Lui revient subitement l'image de Jules en train de danser autour de la table dans son peignoir l'autre matin, faisant semblant de boxer avec ce sourire en coin bien à elle, découvrant toutes ses dents. Et Mary Pat pousse la porte. Le type qui se tient derrière le bar a une cigarette allumée entre les lèvres et il plisse sa paupière pour se protéger de la fumée qui monte dans son œil droit tandis qu'il se sert une rasade de rhum. C'est un type que tout le monde appelle « Weeds » parce qu'il est maigrichon et désagréable à regarder. Il a un bec de lièvre, son œil gauche flotte dans son orbite et une rumeur court selon laquelle il aurait poussé son jeune frère du haut d'un toit quand ils étaient petits, rien que pour entendre le bruit que le pauvre gosse ferait en atterrissant. Il ne porte pas son barracuda ce soir, juste un t-shirt qui a l'air sale dans la lumière tamisée. Larry Foyle est assis à une table le long du mur. Le corps de Larry ressemble à des pneus empilés les uns sur les autres, et le cou n'est pas beaucoup plus mince. Sa tête est énorme, comme celle d'une statue. Il a des mains telles qu'il pourrait tenir un élan dans le creux de sa paume. Il vit encore avec ses parents, et on peut souvent l'apercevoir en train de pousser le fauteuil roulant de son grand-père sur Day Boulevard. Larry est généralement affable, un farceur espiègle. Mais ce soir, il regarde sa bière et pas une seule fois en direction de Mary Pat. Comme Weeds, il ne porte qu'un t-shirt. Elle ne peut pas distinguer dans quel état est ce t-shirt, ni même sa couleur. Mais elle sent son odeur corporelle à 10 pas. Il n'y a que ces deux hommes dans la salle. Au bout du bar, la porte du fond est ouverte. Elle regarde Weeds. Il bat des paupières une fois dans la faible lumière, une indication qu'elle doit se diriger vers cette porte arrière. Puis, il avale d'un trait son petit verre et s'en sert un autre. Tandis qu'elle traverse le bar, elle s'attend à entendre le raclement des pieds d'une chaise, un bruissement de membres en action, des pas se précipitant derrière elle. Une veine palpite dans un endroit de sa gorge où elle ne savait même pas qu'il y en avait une. La salle du bar donne sur un étroit couloir sombre qui mène aux toilettes et à la porte de derrière. Ça sent le Lysol et les blocs désodorisants pour urinoir. La brise nocturne est humide et chaude sur son visage. Brian Shay l'attend dehors. Elle n'est jamais sortie par là auparavant et elle est légèrement surprise de voir qu'ils en ont fait une sorte de terrasse avec des pavés couvrant le sol et des guirlandes d'ampoules tendues entre les murs extérieurs du bar et le club de gym voisin. Quelques tables et chaises en fer forgé, des plantes en pot et un tonnelet à bière pression ça et là. Tout au fond, il y a une maison bleue de 3 étages avec les contours de fenêtres blancs. Cette maison a été l'objet d'un tas de rumeurs au fil des années. C'est la véritable résidence de Marty Butler. C'est une planque, c'est un casino haut de gamme, c'est un bordel haut de gamme. C'est là que sont cachés tous ces tableaux volés au Fogg Museum en 1971. Jusqu'à ce soir, elle ne l'avait jamais vu en entier. Seulement l'étage du haut aperçu depuis la rue. Elle n'a pas l'air extraordinaire. Elle ressemble à toutes les maisons de 3 étages dans Southie et Dorchester. Mais la peinture a été entretenue. Brian Shay ne lui offre pas de siège, mais elle prend tout de même celui qui est en face de lui. La première chose qu'il dit, avec un soupçon de cruauté dans son esquisse de sourire, c'est « T'es allé chez moi ?»« Oui. » Pourquoi t'as fait ça ?
Tu n'as pas tenu ta parole.
Ma quoi ?
Ta parole. Tu m'as dit que tu me contacterais au plus tard à 5 heures. Tu ne l'as pas fait. Le sourire se fait un peu plus large, un peu plus cruel.
T'es dans le coin depuis assez longtemps, Mary Pat, pour savoir que quelqu'un comme toi n'a pas à avoir d'exigence vis-à-vis de quelqu'un comme moi.
Et tu es dans le coin depuis assez longtemps, Brian, pour savoir que je me fous complètement de ce que tu penses que je suis censé savoir pour avoir été assez longtemps dans le coin. Il place la paume de sa main sur sa nuque et la dévisage avec ses yeux Ajax vitre. Son t-shirt n'est pas aussi sale que celui de Weeds, mais elle remarque des traînées de résidus crayeux sur ses bras et une tache de même nature sur sa joue. Ces types auraient-ils cambriolé une école ? Ou fait démarrer une bétonnière en bricolant les fils ? Tu savais que ma fille avait une liaison avec Tombstone ?
Il n'apprécie pas beaucoup ce surnom.
Il préférait peut-être pédophile ?
Elle a 17 ans.
Donc tu le savais ? Un petit mouvement vif des yeux vers le bas.
Je savais.
Elle a la tête qui lui tourne pendant un instant, comme si elle était sur le point de tomber de sa chaise. Elle est avec lui en ce moment ? Avec Frankie ?
Il secoue la tête. Ça fait des jours que Frankie ne l'a pas vu.
Comment tu le sais ?
Il me l'a dit. Je t'avais promis que je me renseignerais. Je l'ai fait.
Je vais lui demander moi-même.
Non. Certainement pas.
Il y a une pointe de fureur dans sa voix et elle sait que la menace est bien plus forte parce que ce n'est pas une menace, mais une promesse.
Frank a une femme et des gosses. Et il est probable que la police de Boston ou les fédéraux l'ont mis sous surveillance 24 heures sur 24. Pas question que t'ailles faire une scène chez Frank Toomey. Tu m'entends ?
Alors où est-elle ?
Je t'ai demandé si tu m'avais entendu, putain de merde.
Je t'ai entendu. Les tendons du cou de Brian se relâchent. Il se cale contre son dossier. Alors ? Où est-elle ?
Je sais pas.
Tu as dit que tu t'étais renseigné.
Ouais. Et qu'est-ce que t'as entendu ?
Que la dernière fois que Jules a été vue ce soir-là, elle rentrait à la maison à pied.
Je te crois pas.
Ça m'est égal.
Les flics sont passés chez moi.
T'es sûr que c'est pas toi qui es allé les voir ?
Elle fait une grimace. Il écarquille ses yeux.
Eh ben, je sais pas, Mary Pat. Je sais plus qui t'es, là, maintenant. T'as complètement perdu la boule.
Ma fille a disparu.
Des filles de son âge qui disparaissent, c'est fréquent. Peut-être qu'elle est en train de faire du stop en direction de San Francisco ou, je sais pas moi, de la Floride.
Les flics ont dit...
Tu cites les flics maintenant ?
Ils ont dit qu'elle était mêlée à ce truc-là où ce garçon s'est fait tuer.
Quel garçon ?
Le garçon à la station de métro.
Le nègre ? Le dealer ?
Comment tu sais que c'était un dealer ? Un ricanement.
Ok. Il cherchait le bureau du Peace Corps et il s'est perdu. Ça te va comme ça ?
Les flics ont dit...
Arrête de dire, les flics ont dit, les flics m'ont raconté. Ma parole, t'es devenue complètement dingue. On parle pas aux flics par ici.
Je ne leur parle pas, c'est eux qui m'ont parlé. Ils m'ont raconté qu'un groupe de gamins blancs ont poursuivi ce gamin noir jusque dans la station. Ils pensent que ces gamins pourraient être George Dunbar, Rum, Brenda Morello et ma fille. Elle allume une cigarette. Brian la dévisage, l'air d'attendre quelque chose, mais cet air disparaît peu à peu.
C'est tout ? Des flics te disent que des jeunes blancs qui auraient pu être ta fille et ses amis auraient peut-être poursuivi un dealer noir jusque dans Columbia Station où il aurait pu tomber sur sa tête de Zoulou et clamser. Et tu veux faire quoi avec cette information ?
Découvrir si c'est vrai pour m'aider à retrouver ma fille. Il remarque la craie sur ses bras et la fait partir en tapant dessus. Il lui indique quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Une masse posée contre une caisse à outils près des marches de la maison à 3 étages de Marty.
Je me suis crevé le cul toute la journée à aider le patron qui fait des travaux dans sa maison et je suis claqué. Épuisé. Et pendant ce temps, toi, tu vas chez moi. Tu déranges ma femme et tu renverses une bière sur la table de ma salle à manger comme une souillon qui sait pas se tenir. Et après, tu débarques ici, 2 fois, pendant qu'on se casse le cul à refaire le salon du patron. Et pourquoi, Mary Pat ? Pourquoi ? Parce que ta foutue fille est probablement en train de planer ou de se faire baiser et qu'elle a oublié d'appeler. Ou alors parce qu'elle a dit « Tu sais pas, j'en ai ras-le-bol de cette merde, ras-le-bol de cette ville, marre de ces gens qui vont envoyer un bus de chimpanzés dans mon école, je file en Floride !» Parce que je te parie $1000 sur mes fonds personnels que c'est là qu'elle est partie. Alors je te suggère de te dire que ta fille est en Floride, en train de siroter des cocktails et de se faire bronzer. Je te suggère de te rappeler que les gosses s'en vont. C'est ce que font les gosses. Mais les voisins, eux, restent. C'est eux qui déneigent ton allée quand t'es malade, te préviennent quand quelqu'un observe ta maison d'une drôle de façon, ce genre de choses.
Il s'allume une cigarette, ses yeux bleu pâle ne quittant pas ceux de Mary Pat au travers de la flamme.
Mais toi, en ce moment même, t'es pas terrible comme voisine. Et on commence tous à en avoir un peu marre.
Tu commences à en avoir marre.
Tout le monde en a marre.
Eh ben, dis à tout le monde que je commence tout juste à me mettre en train. D'une pichenette, il lui envoie sa cigarette dans la poitrine. Il fait ça nonchalamment, puis il fixe sur elle un regard vide, tandis qu'elle enlève les étincelles et les morceaux de braise avant qu'il ne brûle le tissu de son chemisier.
Les histoires de merde dit-il en prenant une autre cigarette dans son paquet.
Ça arrive aux voisins de merde.
Elle n'arrive pas à penser à une réplique. À cet instant, elle n'arrive pas vraiment à penser à quoi que ce soit. Elle a la tête qui tourne. Alors elle s'en va.